les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le temps glorieux du bœuf sur le toit dans les années 20, c'était le temps du Charleston, de Mistinguette, de Lindbergh atterrissant au Bourget, de Coco Chanel, du jazz, des garçons et des danseurs mondains. C'était le temps des fêtes, des bals masqués d'une haute société se mêlant aux artistes, le temps de ses mécènes soutenant les avant-gardes. Tel Charles Noailles, soutien des surréalistes, protecteur des poètes comme René Crevel, premier collectionneur des œuvres de Klee et de Mondrian, finançant le cinéma expérimental de Man Ray et un peu plus tard, l'âge d'or de Buñuel. Charles de Noailles et l'atmosphère du bœuf sur le toit, à l'époque où Jean Viénère et Clément Doucet y jouaient à quatre mains, on les retrouve dans le quatrième des cinq épisodes que Paul Chavas consacrait en 1972 au mythique cabaret de la rue Boissy-d'Anglas. On y entend aussi abondamment l'un de ceux qui vivaient alors intensément les nuits parisiennes, le comédien Pierre Bertin, qui fut de toutes les aventures théâtrales et mondaines à l'époque de l'âge d'or du bœuf sur le toit. Le bœuf sur le toit, 50 ans après, la jeunesse, les mécènes, quatrième épisode et non troisième, comme annoncé au début de l'émission.
Le bœuf sur le toit, 50 ans après. Une émission produite en 1972 par Paul Chavas et réalisée par Evelyne Frémy et Marie-Rose Derouet. Prise de son en extérieur, André Hautser. Mixage, Françoise Brochard. Troisième partie, le bœuf sur le toit, la jeunesse, les mécènes. Avec Pierre Bertin, James de Coquet, Marie Monnier-Bécat, Georges-Henri Rivière, Madeleine Sabine, Adrienne Bolland, Georges Auric, Charles de Noailles.
Au cours de ces années 20, une grande fièvre de création à tous les niveaux animait Paris. Et Pierre Bertin a vraiment été mêlé à tous les spectacles, aux divertissements et aux mondanités de cette époque.
J'ai été mêlé à ça, voyez-vous, parce que à ce moment-là, j'avais épousé une femme qui était une grande pianiste qui s'appelait Marcel Meyer. Et alors, comme elle fréquentait tout le groupe des nouveaux musiciens, le groupe des six, qu'elle connaissait Stravinsky, elle avait même connu Debussy, le monde de la musique est un monde très différent du monde du théâtre. C'est très différent. Alors j'avais la chance ainsi de pouvoir pénétrer dans des milieux très divers.
Quels sont les grands moments dont vous gardez le souvenir maintenant? Car en fait, quand on considère les différentes formes de spectacle de ces années 20, il semble que la musique ait été mêlée à tout. Il y avait bien sûr les concerts, mais il y avait également le ballet, les spectacles mimés.
Ben, n'oublions pas, il y avait eu les ballets russes qui nous avaient donné, n'oublions pas, le Sacre du Printemps. En 1913, je crois.
Qui a été la grande révolution.
Ah, ça a été le grand coup, ça. Et puis, nous avions eu cette révolution de la peinture au théâtre, que, en somme, Diaghilev a marqué. C'est à cause de Diaghilev que la peinture est entrée dans l'affaire théâtrale.
C'est ça, avec des noms comme Braque, Léger,
oui, petit à petit,
Picasso,
ils sont tous arrivés. Le premier, c'était Bakst. Bakst, Goncharova, Larionov, surtout Goncharova. Et Bakst, c'est lui qui a révolutionné, en quelque sorte, et même la mode, à ce moment-là. Poiret, à ce moment-là, a joué un très grand rôle aussi. Hein. Poiret était le grand couturier de l'époque. Alors, il suivait intensément tout ce mouvement-là, et il s'inspirait de la mode des ballets russes, des couleurs, n'est-ce pas, et des formes, pour habiller ces femmes du monde, qui étaient donc en turc ou en bayadère.
Mais après-guerre aussi, Poiret a régné
sur
le monde.
Il a continué. N'oublions pas que pendant la guerre, Paris n'a pas cessé de vivre, et d'une manière mon Dieu, je dirais presque assez normale. Alors, il y avait tout un mouvement qui peu à peu s'est accentué, d'ailleurs, parce que n'oublions pas que le Casino de Paris a été les plus beaux jours à ce moment-là du Casino de Paris, c'était pendant la guerre. Gaby Delis, Pilser, Harry Pilser, n'est-ce pas, c'était... Vous ne pouvez pas vous imaginer le succès qu'ils avaient, ces deux êtres-là étaient merveilleuses, Gaby Delis. Et alors, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à entendre des sonorités de jazz. Parce qu'il y avait un orchestre qui jouait beaucoup en Angleterre, les Billy Arnolds, qui ont été amenés à ce moment-là par Gaby Delis. Et c'est la première fois qu'on a entendu ces sonorités américaines. Ensuite, on les a réentendues quand les Américains sont entrés en guerre. Et à la Libération en 18, on entendait des sonorités qui ont envahi toutes les rues de Paris. Ils ont passé sous l'Arc de Triomphe en jouant des airs de jazz, en somme. Et savez-vous quel a été le premier instrument de jazz? Eh bien, c'est Cocteau qui nous l'a fait entendre. Parce que Stravinsky avait rapporté à Cocteau un jeu de tambour, de grosses caisses et de timbres, n'est-ce pas? C'était tout un instrument, le jazz. Et alors, un soir, mais je vous parle donc, c'est après la guerre, que ça, c'est vers 19 ou 20 qu'on a entendu ça. Et je vois encore Cocteau déployer son instrument dans une librairie de la rue de Seine, au coin de la rue des Beaux-Arts. On avait réuni là tout le monde. Cocteau avait arrangé son instrument, ses tambours, ses grosses caisses, ses cymbales, enfin, tout ce qui fait le jazz.
Oui.
Alors, il était coiffé d'un chapeau haute forme, un chapeau claque, et il avait de grands gants crispins qui montaient jusqu'au coude, et il maniait ses baguettes comme ça, à l'émerveillement de tout le monde. On venait voir Cocteau.
Mais je pense qu'ensuite, Cocteau a un peu tenu certains soirs le même rôle, justement, au Bœuf sur le Toit.
Ah non, non. Il lui arrivait peut-être de le faire, mais ce n'était pas un numéro qu'il faisait tous les soirs. C'était quand il était poussé par quelques amis, n'est-ce pas? Mais non, les grands musiciens du bar Gaïa, le Bœuf sur le Toit a commencé rue Dufaux. Il y avait là un petit établissement qui vendait des foie gras. Ça s'appelait la cigogne, à cause des foie gras, bien sûr. Et alors, la cigogne a été reprise par Moïse. Moïse était un homme extrêmement courtois et charmant. Et il nous conviait, là, au bar Gaïa, à venir manger du foie gras, qu'il nous offrait presque. Ça, c'était un homme très généreux, Moïse. D'abord, rue Dufaux. Eh bien, rue Dufaux, on a installé tout de suite un piano à queue, ou même deux pianos, je ne sais pas, ils n'étaient pas deux, Vienner et Doucet.
Un au départ.
Ils avaient un au départ. Et alors, ils jouaient à quatre mains, là, Vienner avec Doucet, et Vienner, vraiment, avait le génie, avec Doucet, ils avaient le génie de ces musiques nouvelles. Ils composaient eux-mêmes des choses merveilleuses, n'est-ce pas, qui n'étaient pas des choses américaines, c'était des choses issues de l'Amérique, mais c'était très original ce qu'ils faisaient. Et alors, comme il y avait parmi nous des chanteurs, il y avait il y avait Yvonne Georges, je me rappelle, qui était là beaucoup, qui était une admirable chanteuse. Il y avait Kubitsky, qui était un ténor russe, qui avait une physionomie qui nous abusait beaucoup. Il avait l'air du général Dourakine, un peu, vous savez, c'est une grosse tête, c'est russe, avec des gros sourcils. Et alors, il était un être exquis, absolument, Kubitsky. Et alors, de temps en temps, on chantait dans ce bar, mais il n'y avait pas de programme. On chantait quand on en avait envie. C'est vous dire qu'il y avait, à ce moment-là, un air de liberté dans tout ce que nous avons fait. Il n'y a pas eu d'école musicale des six. Ça s'est fait spontanément, ça a été comme ça, par le plaisir que nous avions à nous réunir. Nous nous réunissions là, et nous allions souvent dîner ensemble dans un restaurant qui se trouvait derrière la Madeleine. Ou alors nous allions chez Millau lui-même, qui habitait Montmartre. Il avait, à ce moment-là, avec Paul Morand, ils avaient institué une espèce de samedi, je crois, où on se réunissait toujours. Alors, Il y avait un monde fou dans ce petit appartement de milieu, c'était très drôle. Et les agents venaient voir ce qui se passait à la porte, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ce sont des anarchistes russes, on avait très peur toujours d'une bombe quelconque, pas du tout. C'était nous, n'est-ce pas, tous qui venions, d'abord attirés par nos amis, et aussi par la foi. Les musiques de ces baraques, les musiques foraines en quelque sorte, se mêlaient merveilleusement à la musique que nous aimions, de Poulenc, d'Auric, de Millau lui-même, n'est-ce pas? Il y avait là une atmosphère extrêmement bouffonne et très poétique.
Dans la vie, malgré tout ce qu'on raconte, on peut être heureux de temps en temps. Moi qui n'aime pas les gens qui se démontrent, je vous donne un conseil épatant. Chantez, dès qu'un petit rayon de soleil discret paraît. Chantez, quand vous voyez des amoureux enlacés passer. Et surtout chantez, quand vous allez retrouver celle qui vous rend fou. Cherchez partout la gaieté pour être heureux, chantez.
Avec James de Coquet, c'est une autre atmosphère. C'est maintenant la jeunesse turbulente et gaie du Bœuf sur le Toit.
Nous étions assez nombreux, là. Nous étions des jeunes gens. Nous étions correctement habillés. Nous avions de bonnes manières. Et il faut bien le dire, il faut dans des établissements de nuit, dans des boîtes de nuit, il faut des jeunes gens bien pour faire danser les femmes. Et on savait qu'on ne leur prendrait pas leur collier de perles, qu'on ne leur prendrait pas leur sac, qu'on se contentait de les faire danser. Il arrivait même qu'on leur fasse autre chose, d'ailleurs. Mais enfin, tout ça restait de bon ton, vous comprenez, de bonne compagnie.
Car en effet, la compagnie était souvent brillante.
La compagnie était très souvent brillante. Il y avait... Je me souviens, il y en a un qui vient encore, d'ailleurs, qui s'appelle Monsieur de Grandmaison, qui était à l'époque député de la Mayenne ou du Maine-et-Loire. Il venait là avec son épouse. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait notre ami le marquis de la Falaise. Alors, le marquis de la Falaise, il lui est arrivé une aventure extraordinaire. C'est qu'un jour, il est parti pour les États-Unis et savez-vous ce qu'il allait faire? Eh bien, il allait épouser Gloria Swanson, vous vous rendez compte? Enfin, c'était la Greta Garbo de l'époque, Gloria Swanson. Et nous l'avons tous accompagné à Saint-Lazare, où il prenait le train des transatlantiques, pour aller épouser Gloria Swanson. Et il y avait aussi des artistes, il y avait en particulier Yvonne Georges. Alors Yvonne Georges, qui est une femme qui avait infiniment de talent, le Bœuf fermait à 2 heures, et quelquefois, nous allions après, avec Moïse d'ailleurs, Yvonne Georges et quelques clients, dans l'hôtel de Lucie Jean, où il y avait toujours à souper, bien entendu, tout ce qu'il fallait, un buffet, un personnel. Et Yvonne Georges se mettait à chanter, et elle chantait sa fameuse chanson « Pars sans te retourner ». C'est une chanson qui a fait le tour du monde. « Pars sans te retourner, je n'ai pas su t'aimer, pas su te retenir ». Ni mes baisers, ni mes étreintes dans ton cœur n'ont laissé d'empreinte. Pars sans te retourner, pars sans un mot d'adieu. Enfin, c'est une chanson admirable d'ailleurs, qu'elle chantait d'une voix bouleversante.
Et ses soupers étaient très gais aussi?
Ses soupers étaient très gais, tout ça se terminait vers 3h, 4h du matin. Et il arrivait aussi qu'on aille faire un tour à Montmartre après ça. Et ça se terminait au hammam, qui est de rue des Mathurins, au coin de la rue Aubert. Je ne sais pas s'il existe toujours. Alors on sonnait à 6 heures du matin, il y avait un veilleur de nuit, le hammam ouvrait vers 7 heures. Alors on disait au gardien de nuit, mettez-nous dans une cabine, on va dormir un petit peu, et puis qu'on nous réveille à 8 heures avec un masseur. Alors à 8 heures, un masseur arrivait, on dormait encore, il vous massait tout en dormant, et puis tout d'un coup, il vous jetait dans... Il y avait une petite piscine qui était grande comme cette pièce, et il vous jetait dans l'eau, ce qui vous réveillait. Et puis sur le coup, donc, on prenait un petit déjeuner, on prenait quelque chose de remontant, un porto-flip, c'est une boisson démodée, c'est un porto avec du jaune d'œuf. Et puis sur le coup, de 11 heures, je faisais surface au Figaro, qui était alors rue de Rouault.
Est-ce que le théâtre, est-ce que les spectacles tenaient beaucoup de place dans votre vie ou dans vos sorties entre amis?
Ben oui, le spectacle donnait d'autant plus de place dans ma vie qu'en 1923, je me suis marié avec la vedette de chez Jouvet qui s'appelait René Ray et qui venait de créer Monsieur le Troidec saisi par la débauche. Alors par conséquent, le spectacle et Jouvet tenaient une grande place dans ma vie.
Quelles ont été les grandes pièces de cette époque, entre les années 21 et 30 environ?
Ça a été Monsieur le Troidec, et puis également Malbrousse en va en guerre, qui est une pièce d'Achard, et c'est justement pendant que répétait la pièce d'Achard que ma femme, René Ray, est tombée malade, et elle a été remplacée par Valentine Tessier, qui est devenue ensuite la vedette de chez Jouvet. Il y a eu le paquebot Ténacité. Oh, il y a eu beaucoup de pièces. Et moi, j'aimais beaucoup Jouvet. Et un jour, il est venu me voir, un soir, rue Drouot. Et il est venu me dire, écoute, je viens te demander un service. Je voudrais que tu me présentes à Robert de Flers. Robert de Flers, vous savez, était le directeur littéraire du Figaro. Il était président de la Société des auteurs et il était un auteur dramatique à succès, comme vous le savez. Je suis allé trouver Robert de Flers, je lui ai dit, voilà, il y a Louis Jouvet qui voudrait vous être présenté, il a quelque chose à vous demander, faites-le entrer. Et Jouvet a dit à de Flers, écoutez, je regrette le temps où j'étais chez Copeau et où je gagnais 400 francs par mois. Parce qu'aujourd'hui, je suis directeur de théâtre, mais quelquefois, je me demande comment je vais manger le lendemain. Alors, il était à la veille de jouer une pièce qui s'appelait « Au grand large ». Alors, il disait, c'est une pièce qui est très bien, mais malheureusement, comme toutes les autres pièces, ça ne fera pas d'argent. Et je voudrais que le Figaro me fasse crédit pour la publicité. Alors, de Flers lui a dit, écoutez, donnez vos placards de publicité. Et on a fait crédit à Louis Jouvet. Et il se trouve que cette pièce, « Au grand large », a marché, et c'est à partir de ce moment-là que Jouvet est devenu un directeur à succès.
Est-ce que la littérature était bien représentée au Bœuf-sur-le-Toit?
Ah oui, la littérature, bien sûr. Il y avait Cocteau, enfin, il ne venait pas, mais enfin, il était quand même présent. Il y avait Gilbert Charles, il y avait... Ah, puis il y avait Léon-Paul Fargue. Ben voyons, Léon-Paul Fargue était un des piliers du Bœuf-sur-le-Toit.
On dit même qu'il se faisait envoyer son courrier.
Ah, c'est possible. Alors, vous savez que Léon-Paul Fargue était le fils d'un fabricant de faïence qui sont d'ailleurs à la brasserie Lippe. Et alors, l'atelier de son père était à côté de la gare de l'Est. Et quand la gare de l'Est s'est agrandie et qu'on allait exproprier l'atelier de son père, nous sommes tous allés là-bas pour jouer les ouvriers. On nous a mis des grandes blouses blanches pour montrer que c'était une affaire en pleine expansion, en pleine activité, alors qu'en réalité, il y avait 2 ou 3 ouvriers. Mais quand les experts sont venus, il y en avait 20. C'était les gens du Bœuf-sur-le-Toit qui jouaient les ouvriers de la maison Fargue.
Mais les gens du Bœuf-sur-le-Toit appartenaient au fond à des groupes tellement distincts que presque toute la vie des années 20 pourrait figurer dans cette émission, il me semble. Je pense en ce moment à Paul Poiret.
Ah ben à Paul Poiret, naturellement. Paul Poiret avait débuté dans l'avenue Franklin Roosevelt d'aujourd'hui, qui s'appelait alors l'avenue Dantin. Elle s'est appelée aussi l'avenue Victor Emmanuel, entre-temps, puis on l'a débaptisée à la guerre. Mais il était à droite, tout près de Saint-Philippe-du-Roule, et il avait là un petit hôtel avec un jardin. Et je me souviens même un soir, et il était très fêtard, Poiret, et il aimait beaucoup sortir. Un soir, nous sortons, et puis il lui était tombé sur le dos un de ses amis qui était un commandant de l'armée coloniale. Alors, Poiret, on avait dit, on va aller ici ou là, puis après, vous viendrez à la maison manger un peu de viande froide. Et quand nous sommes arrivés, le malheureux commandant a eu une attaque, il est tombé mort en arrivant, et Poiret, qui était un être cynique, charmant mais cynique, a dit, je vous avais promis de la viande froide, mais je ne pensais pas que ça serait ça. Alors, pour en revenir à ce charmant Poiret, à l'exposition des Arts Déco en 25, il avait fait 3 péniches qui s'appelaient Amour, Délices et Orgue. Et il y en avait une, je ne sais plus si c'était Amour, Délices ou Orgue, dans lesquelles on dînait, qui était un restaurant. Alors, dans ce restaurant, il y avait tous les soirs un canular. C'est-à-dire que, par exemple, Il y avait deux personnes qui étaient en train de dîner à une table, et puis à une autre table, il y avait un monsieur, et tout d'un coup, celui qui était avec la dame disait au monsieur seul, « Monsieur, écoutez, je commence à en avoir assez de vous voir regarder ma femme. » Et alors, ces deux individus se prenaient au collet, et puis il y en a un qui faisait passer l'autre par-dessus bord et l'envoyait dans la Seine. Mais tout ça, c'était arrangé d'avance. Et tous les soirs, il y avait une farce nouvelle. Alors, les gens venaient pour le canular.
Vous vous rappelez la silhouette des femmes pendant ces années-là?
Oui, oui, assez bien. Je m'en souviens d'autant mieux que je collaborais à une revue très célèbre à l'époque qui s'appelait La Gazette du Bon Ton. C'était une mode qui était un petit peu empire, c'est-à-dire qu'elles avaient la taille sous les seins, et puis une longue tunique. Ça rappelait un petit peu le directoire et l'empire.
Et alors Chanel?
Ah ben Chanel, c'est plus tard. Chanel n'est venu que vers 26 ou 27 avec ses petits tailleurs, avec ses tricots, avec ses poules. C'est elle qui a lancé les poules. Elle disait qu'il faut que la mode descende dans la rue, c'était sa formule.
Ça a été un grand bouleversement, je pense, au début.
Ah, ça a été un grand bouleversement, naturellement, tous ces petits tailleurs. Parce qu'il y avait aussi d'autres couturières très célèbres. Il y avait Sherwood qui avait inventé les smoking pailletés pour les femmes.
Mais parmi les événements de cette époque, grands ou petits, qui ont défrayé les conversations, est-ce qu'il y a un souvenir particulièrement vif pour vous?
Oui, il y a eu l'arrivée de Lindbergh. Ça a été un événement absolument extraordinaire et qui a bouleversé Paris. Je me souviens, ça devait être au mois de juin, au printemps. Et tout d'un coup, la nouvelle a circulé dans Paris qu'un aviateur, on ne savait pas son nom, parti des États-Unis, allait arriver au Bourget. Sans escale. Et alors tout le monde s'est précipité au Bourget. Et alors on est arrivé là, nous avons vu l'avion se poser, on en était maintenu par la police, et brusquement, la foule a brisé les barrages de police et s'est précipité vers l'avion de Lindbergh. Et c'est un miracle, n'est-ce pas, que ça ne se soit pas terminé par un accident très grave. Parce qu'il a pu arrêter son avion, mais juste au ras de la foule. C'était quelque chose de faramineux. Puis alors, tout le monde a suivi. Il y avait naturellement l'ambassadeur des États-Unis qui s'appelait Myron Eric, qui a une place d'ailleurs aujourd'hui à Paris. Alors il est parti, on l'a amené à l'ambassade des États-Unis. Il était dans une voiture découverte et il avait un petit canotier en paille comme
Maurice Chevalier.
Et le lendemain, il s'est promené sur les Champs-Élysées, toujours avec l'ambassadeur en voiture. Enfin, c'était absolument de la folie. C'était quelque chose un petit peu comme le voyage sur la Lune.
C'était d'autant plus bouleversant que peu de temps auparavant, cette même année, Nungesser et Colly avaient
ils avaient disparu, puis dans des conditions épouvantables, parce que des journaux pas très scrupuleux avaient annoncé qu'on les avait vus, alors qu'on ne les avait pas vus du tout. Mais ils avaient fait ça pour vendre des éditions, que bien entendu, tout Paris s'était arraché.
Voici Marie Monnier-Becca, qui est la sœur d'Adrienne Monnier, cette Adrienne Monnier qui avait monté la fameuse librairie de la rue de l'Odéon.
Naturellement, j'ai été au Bœuf sur le Toit pas mal, parce que Fargue avait horreur d'être seul. Il fallait toujours qu'il ait un ami. Alors, n'est-ce pas, quand il y avait quelqu'un qui pouvait être disponible et qui pouvait l'attraper, il l'amenait avec lui en taxi, naturellement, toujours en taxi. Et moi, j'étais au Bœuf sur le Toit, il venait me chercher le soir, et on allait au Bœuf sur le Toit, ça a duré un mois, et après, je m'ennuyais tellement, mais tellement, que j'ai pris une crise de larmes, et que je l'ai supplié, je lui ai dit, non, trouve quelqu'un d'autre, moi, c'est fini.
Vous n'étiez pas noctambule?
Oh, du tout, surtout pour ce genre de choses. Vous comprenez, voir tous les gens assis à des tables, ça n'est pas tellement drôle. D'autant plus qu'il n'y a, Il n'y a pas de conversation tellement intéressante. Il y a des fois, il y avait des petits numéros, naturellement.
Mais ces numéros dont vous parlez étaient des numéros improvisés.
Ah, c'était absolument improvisés. C'était à la fin, quand la plupart des gens étaient partis.
On dansait beaucoup. Est-ce que vous aimiez danser?
Oh oui, j'ai beaucoup dansé. On allait donc à la Cigogne dans l'après-midi. C'était à 5 heures. Et je me rappelle, il y avait Langer aussi, qui était un grand enseigne. Et on allait là à 5 heures, quoi. C'était tout à fait l'habitude
le
à ce moment-là.
Le thé dansant.
C'est ça, on s'était tellement embêté pendant la guerre, et on en avait tout de même pas mal bavé, qu'après ça a été une sorte de folie. Maintenant, une chose dont je me rappelle aussi, c'était les partouzes. Ce n'est pas que j'ai assisté à des partouzes, mais une fois, il y avait toute une bande, ils avaient convenu qu'on allait aller voir les voitures à partouzes. Ceci se passait au bois.
Au bois de Boulogne.
Au bois de Boulogne. Alors, on a donc été là-bas et, en effet, on a vu un défilé de voitures avec les femmes sur les marchepieds qui faisaient des signes pour essayer de trouver des acolytes. Et il y en avait pas mal.
Ces années pendant lesquelles on a tellement dansé, est-ce que vous gardez un souvenir d'air qui était à la mode ou de chansons que l'on reprenait comme des rengaines?
Oh, ben on dansait le chimie, on dansait le one step, bien sûr. On dansait le tango, on dansait toujours le tango. Le vrai tango d'ailleurs, parce qu'après on l'a beaucoup transformé. Et puis qu'est-ce qu'on dansait encore? Oh, je me rappelle.
Après, ça a été le Charleston.
Après, oui, ça a été le Charleston.
La société de Fargue, pourtant, elle vous a ennuyé parce que vous alliez dans...
C'était pas la société de Fargue qui m'ennuyait, c'était le cabaret. Au contraire, la société de Fargue, il était extrêmement amusant. C'est absolument surtout, d'autant plus qu'il avait encore un langage particulier, il transformait beaucoup les mots. Alors, quand on avait l'habitude... On les transformait aussi, ça faisait de drôles de discours.
Mais on les transformait selon un système donné, comme les enfants parlent en javanais, par exemple?
Ah non, non, il y avait une partie de contrepétrie, et puis alors il y avait une partie de création de mots. Par exemple, deux mots soudés.
Quelque chose m'a frappé, c'est que parmi tout ce que j'ai lu sur le bœuf sur le toit, tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, personne justement n'a évoqué, visuellement du moins, ce qu'était ce cabaret intérieurement. Comment était-il? Que voyait-on?
Bien, à l'entrée, il y avait le piano double.
Georges-Henri Rivière.
C'était un piano, je crois que c'était un Pleyel, si je ne me trompe, n'est-ce pas? Et puis alors à chaque bout, il y avait Vienner, il y avait Doucet. Et à côté de l'un d'eux, il y avait Williams avec la batterie. Au fond, il y avait le bar proprement dit, et puis un certain nombre de tables tout autour. Moïse se mettait de préférence souvent à gauche. Je le vois du côté gauche, là, avec un certain nombre d'amis qui se retrouvaient pour parler avec lui. Et... Alors donc, toutes ces tables très emplies, avec un certain nombre de gens qui ne trouvaient pas place et qui s'accumulaient aussi devant le bar du fond. Alors là-dedans, des vêtements très mélangés, des gens extrêmement élégants. Enfin, ces jolies femmes qui étaient Marie-Blanche ou d'autres, n'est-ce pas? Et puis aussi, des gens plus négligés. Il n'y avait pas de cheveux longs à ce moment-là, mais enfin, moralement, il y avait aussi des gens plus négligés qu'on trouvait à droite et à gauche.
Mais donc, les couleurs, par exemple, c'était...
Je ne me rappelle rien de particulier dans les couleurs, mais je vois par contre une chose, un grand présent dont on devait parler, c'est le fameux tableau sur lequel étaient les signatures
plus ou moins
embellies des uns et des autres, d'après.
Oui, l'œuvre de Picabia.
C'était le tableau imaginé par Picabia. On ne peut pas l'appeler l'œuvre de Picabia puisqu'il n'y avait rien de Picabia sauf cet œil.
Georges Auric.
Mais alors là, j'ai assisté au départ de ce tableau. Je me souviens d'un jour, alors, où il a montré un tableau où il y avait un œil. Et puis il a dit, voilà, tu vas signer et mettre une phrase. Et tout le monde, peu à peu, a mis une phrase. Et ce tableau qui, au début, était complètement blanc, sauf l'œil, et a été couvert d'inscriptions et est devenu l'œil Cacodylas, puisque Picabia l'a baptisé ainsi. Et c'est devenu l'ornement du bœuf sur le toit de la rue Boissy-d'Anglas, dont nous parlons en ce moment-ci, qui n'est plus, bien entendu, le petit bœuf, enfin le petit gaillard.
Le départ de la rue
Gaïf, l'archéobœuf. Oui. Enfin, est-ce que la rue d'Athènes, ça dit quelque chose?
Puisque nous venons de parler des artistes qu'on rencontrait au bœuf sur le toit, il y avait évidemment ce que Georges-Henri Rivière, d'une façon assez diabolique, vient de provoquer en moi comme souvenir, c'est-à-dire une rue qui était la rue d'Athènes, où au dernier étage habitait une famille charmante qui était la famille Godepski.
Voilà.
La famille Godepski a joué un rôle, sans aucun doute, dans une espèce d'évolution du milieu artistique de cette époque, parce que ces gens charmants et très simples, mais exquis, comme accueil et comme fraternité, comme cordialité, ces gens recevaient tous les dimanches soirs des artistes qui étaient Ravel, qui étaient Stravinsky quand il était à Paris, qui était le grand pianiste aujourd'hui inconnu des générations nouvelles, qui était Ricardo Vignès, qui a créé toute la musique de Debussy, toute la musique de Ravel, et puis des écrivains comme Valéry, à ce moment-là, inconnu, qui n'avait même pas écrit La Jeune Parthe, c'était le Valéry fonctionnaire, et dont on disait, oh, il a écrit autrefois La Soirée avec Monsieur Test, mais il n'écrit plus rien du tout maintenant. Et puis Valéry Larbour, enfin des quantités, Fargue, dont nous parlions longuement, c'est ça la rue d'Athènes, c'est ça les Golepski, et j'ajoute pour en finir que Sipa Godepski était le frère de Madame Certes, puisqu'elle avait épousé Misia Certes, elle avait épousé le peintre catalan Certes.
Misia Certes, c'est un nom qui pour nous est très évocateur, mais il nous est assez difficile aujourd'hui de dire ce qu'il évoque exactement. Est-ce que vous voulez apporter quelque chose à cette auréole?
Elle faisait partie des gens qu'on voyait dans notre petit milieu plusieurs fois par semaine, de même qu'on allait au bœuf sur le toit, eh bien, de même, je peux dire que pendant des années, je suis allé très souvent, chaque semaine, chez Missia Certes, parce qu'elle accueillait d'une façon vraiment magnifique tous ses amis, et ses amis, c'était merveilleux pour moi, qui était très jeune, de les rencontrer, parce que ses grands amis, c'était précisément Serge Diaghilev, c'était Ravel, c'était Stravinsky, c'était à partir d'un certain moment Picasso, qui aimait bien Missia, et puis tout ce qui existait à cette époque d'important, car cette femme avait été portraiturée par Vuillard, par Renoir. C'est prodigieux, n'est-ce pas, toute la vie de Missia, alors bien avant que je ne l'ai rencontrée, mais elle a toujours grandi dans un milieu absolument extraordinaire. Quand elle était enfant, elle a connu Mallarmé. Je crois qu'il y a peu d'êtres qui aient grandi et vécu dans un milieu comparable à celui qui a été le sien. C'était une personne capitale dans le milieu où nous vivions à cette époque, et rien ne changera cela.
Séduira toujours les messieurs, bien habillés, poudrés, bien fait bien parfumer. Une femme est un charme pour les yeux.
Semaine féminine, 12 juin 1921. La lutte se poursuit pour la nouvelle ligne féminine. S'il est bon de se sentir le corps à l'aise dans ces petites ceintures inexistantes qui ne donnent à la silhouette ni confort ni tenue, il est encore meilleur pour la santé des femmes et surtout de celles qu'un travail fatigant tient debout tout le jour ou que de nombreuses courses obligent à des marches répétées, d'être maintenues dans un bon et solide corset. La toilette de la femme redeviendra très féminine. Ce sera la réaction contre un état de vie qu'imposèrent un usage fréquent des sports et les conditions de vie amenées par la guerre. La femme, en reprenant sa place au foyer, la jeune fille en restant en plus chez elle, abandonneront petit à petit l'allure masculine, que les emplois qu'elles surent du reste tenir avec intelligence et courage pendant une période si troublée, leur avaient peu à peu fait prendre.
Madeleine Sabine.
J'aimerais évoquer malgré tout les modes d'avant-guerre, parce qu'il y a eu une période extrêmement importante. Il y a eu là véritablement une rupture. D'abord par la suppression du corset. Les femmes ont eu une autre silhouette. C'était une sorte de libération de la femme, déjà. Le corps était plus libre. Et alors, chose très importante aussi, l'arrivée des ballets russes. Et nous ne sommes plus tellement nombreux à avoir assisté à la bataille du Sacre du Printemps, où vraiment les hommes en habit et les femmes très habillées, et déshabillées d'ailleurs, se sont battus comme des rustres. Mais ça a eu une très très grande influence, parce que le luxe, les couleurs de ces ballets russes ont tout à fait influencé. Les soyeux de Lyon se sont mis à faire des lamets, les couleurs ont été beaucoup plus rutilantes. Ça a été vraiment un changement total de la mode. Poiré avait déjà apparu. Il habillait les femmes en almé et en hindou. Et alors, en enjambant la période de plus terrible bataille, hélas, nous arrivons alors à la période où vraiment les femmes ont eu là, alors après la guerre, une pléiade d'extraordinaires couturiers. Poiré a été le roi de la mode pendant un temps. Il a donné des fêtes magnifiques dans son hôtel de l'avenue d'Antin. En 25, il a aidé à organiser les arts décoratifs. Et sur la Seine le fleuve cette fois, il a eu trois péniches.
Amour
des îles et orgues, où tout Paris défila. Pendant le même temps, Coco Chanel, la grande demoiselle, au contraire, inaugura une mode extrêmement simple avec le nouveau tissu du jersey, qui ne plut pas tellement aux hommes. Ils trouvèrent d'abord que ces caracos ressemblaient un peu à ce que portaient autrefois les cuisinières et les nourrices. Et puis ils s'y habituèrent, parce que les petites robes de Chanel avaient énormément de charme. Elles paraissaient toutes droites et elles étaient coupées par des triangles qui les faisaient onduler, qui en faisaient des robes larges et presque des robes à danser. Il suffisait d'ouvrir quelques boutons. Avec un foulard, on était tout de même fort joliment habillés et les femmes aimèrent beaucoup.
Mais n'est-ce pas aussi Coco Chanel qui a lancé la fameuse petite robe noire qui a fait partie pendant des années des garde-robes féminines ?
Eh bien ça, ce serait plutôt, alors j'allais vous parler d'elle, Madeleine Vionnet. Madeleine Vionnet avait eu les femmes de satin brillant pour 5 heures, des petites robes qui n'avaient l'air de rien et qui étaient incopiables, tout en pinces extrêmement savantes. Et ça, ça a eu un succès énorme. À la même époque, toujours dans les années 1923, Isadora Duncan, de retour de Russie, où elle avait fondé une école de danse, était revenue et avait dansé pieds nus en tunique. Beaucoup de jeunes filles et de femmes, alors, voulurent s'habiller en nymphes. Et il y a eu la maison Grèce, dont j'avais sûrement entendu parler, qui fait vraiment des robes extraordinairement belles, en plissées, qui rappelaient à la fois les robes grecques et les robes égyptiennes qu'on voit sur les bas-reliefs. C'était vraiment très, très beau. Mais il y a eu un événement, alors assez curieux, qui changea complètement alors la mode de la coiffure à ce moment-là. Car peu de temps avant la guerre, justement, le fameux Marcel avait inauguré l'ondulation un peu vague, au lieu de ces petites ondulations qui donnaient aux femmes qui voulaient s'en servir une tête de mouton. Mais le scandale de Victor Marguerite, le fameux livre La Garçonne, changea complètement l'allure de certaines femmes. Et surtout, alors, vraiment, la coiffure se répandit des cheveux plats. Je pense que c'est à ce moment-là que le Sénat a refusé le vote des femmes. Et les femmes se sont vengées alors en portant la robe culotte. Vraiment, ce scandale, Paul Marguerite, a beaucoup joué à ce moment-là. On en a beaucoup parlé. Les Fischer ont dû être fort heureux de ce scandale, mais enfin, il a tout de même été radié de la Légion d'honneur.
Mais n'est-ce pas aussi à ce moment-là que les femmes ont commencé à s'épiler les sourcils ?
C'est possible, oui. S'épiler les sourcils, faire oui. Je vous dirais que le fard est assez récent. C'est vraiment que vers cette époque-là que les femmes se sont tellement fardées. Une femme à peu près correcte, enfin du monde, ne se fardait pas, par exemple, avant la guerre de 14. Donc il y a eu là encore absolument une rupture. Juste avant la guerre, à cause de ces fameuses robes si chatoyantes, il fallait évidemment se... Mais j'ai oublié de vous dire un petit détail à propos de Poiret, c'est qu'il faisait coudre aux femmes leurs vrais diamants sur leurs turbans et leurs perles sur leurs ceintures. C'était le très grand faste, comme vous voyez. Ce fut le moment où les grandes dames russes avaient quitté, bien entendu, leur pays avec tous leurs bijoux, mais commençaient à les épuiser. Et elles furent extrêmement courageuses. Certaines purent faire des traductions et d'autres créèrent des maisons de couture, d'abord clandestines et ensuite plus connues. Et elles étaient charmantes. On avait beaucoup de plaisir à aller chez elles. Il y avait quand même dans leur accent, dans leur manière d'être, quelque chose d'exotique au fond qui plaisait beaucoup aux Parisiennes. Elles avaient la science des couleurs. Vraiment, on aimait aller chez elles. Et ce fut alors très important. Elles créèrent, elles, justement, n'ayant plus leurs bijoux, elles eurent l'idée de créer alors le bijou de fantaisie qui dure encore.
Gardez-vous le souvenir que cette période qui est apparemment facile et joyeuse ait duré fort longtemps ?
Je peux très spécialement vous répondre parce que en 1929, il y a eu la grande crise américaine qui eut tout de même une influence sur certains budgets français. Et c'est là justement que Madame M créa, car on n'en portait pas avant, une femme distinguée n'aurait jamais mis de lapin. Les femmes maintenant acceptèrent à ce moment-là de porter le lapin doré au lieu de l'outre de mer, le zorinos au lieu de Breitschwanz. Et en 1930, il y eut une autre crise, alors des pays de Centre-Europe. Et à ce moment-là, alors, il y a eu une diminution très nette, certainement, moins de budget. Je dois dire, j'en parle autant plus facilement que moi en 1930. Eh bien, c'est moi qui fais de la couture. Me souvenant, sans aucune amertume d'ailleurs, de mes relatifs fastes d'autrefois.
Paul Poiret s'insurge. Jusque-là, les femmes étaient belles et architecturales comme des proues de navire. Maintenant, elles ressemblent à de petits télégraphistes sous-alimentés.
Les couturiers ont renouvelé les noms des robes. Lorsqu'on aime, l'attente de l'aimer, heure câline, kiss me, la rencontre, 5 à 7, flirt, viendra-t-il ?
Ce lendemain de la guerre de 14-18 a été bien évidemment marqué par ce qu'on appelle l'émancipation de la femme. Et un grand moment, enfin un moment de scandale qui a eu une grande efficacité, a été celui de ce roman La Garçonne.
Ah oui, ben, tout le monde parlait de La Garçonne, et alors on vivait au fond au milieu de Garçonne.
Adrienne Bolland.
Il fallait voir dans les quelques... semaine que j'étais allée passer à Deauville en 29, n'est-ce pas ? Alors il fallait voir ses amours. Vraiment, c'était non seulement ostensible, mais c'était tapageur. C'était...
C'est ça, c'était un moyen de revendication en même temps.
Ah, c'est très possible. Les hommes ne gênaient pas non plus.
Gardez-vous le souvenir d'un spectacle qui vous a particulièrement frappé à cette époque-là?
Je me rappelle très bien de Gaby Dennis. Je me rappelle très bien d'Harry Pilser. Maurice Chevalier, bien sûr. Puis j'ai aperçu, je peux dire aperçu, Miss Tinguette au premier grand meeting que j'ai fait, c'était en octobre 20. Elle était venue avec Maurice Chevalier.
Et Joséphine Baker, l'avez-vous vu?
Ah oui, bien sûr. Je l'ai même invitée, elle est venue, elle venait chercher, c'était pas un lionceau, c'était une petite panthère au Bourget. Et alors elle était là qui attendait sa panthère. Et nous sommes allés prendre le thé toutes les deux. C'était une fille ravissante, mais ravissante. Elle a fait courir tout Paris. Oh, du reste, écoutez, au point de vue musical, je vous parlais de Miss Tinguette. Il est certain que j'ai l'impression qu'elle reste unique dans son genre. Il y a eu une Miss Tinguette.
La Miss.
La Miss.
Voilà, je me ramène. J'ai vu London, j'ai vu Turin, l'Autriche-Hongrie. Mais de Vienne, il fallait que je revienne. Car je ne peux pas, moi je vous le dis, passer de Paris. Ce Paris qui pourtant vous chine tant et tant. On dit que j'aime les aigrettes, les plumes et les toilettes. C'est vrai. On dit que j'ai la voix qui traîne en chantant mes rengaines. C'est vrai, lorsque ça monte trop, moi je m'arrête. Et d'ailleurs on n'est pas ici à l'opéra. On dit que j'ai le nez en trompette, mais je serais pas Miss Tinguette si j'étais pas comme ça. Que c'est bon quand on vient d'Amsterdam et qu'on a vu pendant des mois des tas de pays, de retrouver le macadam de Paname, ses autobus et son métro et ses taxis, Paris et ses boulevards avec tous ses bobards. On dit que j'ai de grandes connotes, que je n'ai que trois notes. C'est vrai. On dit que j'aime jouer les arpètes, les marchandes de violettes. C'est vrai. Mais ne voulant pas chipper aux grandes coquettes, leurs dames aux camélias, moi je vends mes bégonias. On dit que je vais voir mes grands bêtes, mais je serai pas Miss Tinguette si j'étais pas comme ça. Je fais mes emplettes, que je paye pas ce que j'achète.
C'est vrai.
On dit partout et l'on répète que je lâche pas mes pépettes.
C'est vrai.
Mais s'il faisait comme moi pour sa galette, Monsieur Sarrault n'aurait pas un budget aussi bas. Et si l'on mettait à la tête des finances Miss Tinguette, on n'en serait pas là.
Est-ce que tu n'as pas été frappé toi-même par cette préparation des bals Beaumont? Toi, tu as été peut-être plus acteur que moi en l'espèce.
Georges-Henri Rivière.
Il me semble que les entrées que l'on faisait dans ces bals étaient une sorte de souvenir des entrées royales autrefois, des souverains, par la qualité de la préparation, enfin la qualité des œuvres qui étaient spécialement préparées pour ces entrées, par aussi l'extraordinaire frénésie de costume, n'est-ce pas, de déguisement qui animait la société, toutes nos élégantes et tous nos élégants, pour participer à ces entrées qui avaient chacune leur individualité. Tu as été là, tu as assisté.
Ça n'est pas douteux, évidemment. Ça paraît d'ailleurs aujourd'hui également quelque chose de presque incompréhensible.
Mais est-ce que vous avez des souvenirs précis sur l'un d'eux? Y avait-il des thèmes? Y avait-il des constructions d'entrées comme on le faisait dans le vieux temps?
Les souvenirs précis, je ne pourrais pas dire, mais je me rappelle que par exemple, Bébé dessinait des costumes pour ses entrées. Et je crois même qu'il y a eu des œuvres musicales qui ont été spécialement aménagées pour elle. Et il y avait également de ces bals, je dois dire, qui étaient moins peut-être composés, plus individualistes, chez ce qu'on appelait Tante Winnie.
Chez la princesse de Polignac.
La princesse de Polignac. Je me rappelle un certain bal, je ne devrais peut-être pas en parler, car c'est peut-être une indiscrétion internationale dans mes fonctions actuelles. J'avais, quelque temps avant, assuré une exposition pour cette dame argentine qui faisait la revue Sur. Et elle m'avait prié de faire une exposition sur Rabindranath Tagore. Je ne sais pas comment cette exposition, elle avait été satisfaite, mais je n'avais rien trouvé de mieux dans ce bal costumé chez la princesse que de m'habiller en Rabindranath Tagore. Je me rappelle, ça avait beaucoup réussi mon entrée à cause de ça.
Charles de Noailles.
C'était à une époque, en effet, où la société mondaine était toute prête à se mêler aux artistes. Ça a duré qu'un temps, mais c'était un moment très heureux de ce fait. Et ma femme avait envie de donner une fête ici, et nous avons pensé qu'il valait mieux faire ce qu'on faisait autrefois, c'est-à-dire donner aux gens qui venaient un divertissement. Alors, nous avions commandé une musique, une espèce de petit ballet, à Francis Poulenc et un autre à Georges Auric. Donc là, la chose se passait dans la maison même. Une toiture avait mis le jardin à l'abri, de manière à ce qu'il y ait une scène dans le jardin, où un homme qui avait beaucoup de goût, qui s'appelait Jean-Michel Franck, avait fait les décors du fond, tout en if et en buis, et vraiment des décors ravissants. Vladimir Goldschmann avait monté un orchestre, je m'en rappelle très bien, très encombrant, il n'y avait jamais assez de place pour ces maudits musiciens. Et Jean Hugo a fait les décors du ballet. Et je crois que ça a été une soirée réussie. Nous en avons tous eu beaucoup d'amusement. C'était une époque très facile et amusante. Et à laquelle se mêlait, évidemment, très vite le cinéma. L'origine de ce que notre façon, comment dire, de nous amuser avec, étant à la campagne avec des amis, dans une maison que j'avais hier, de faire des films nous-mêmes. Nous avons essayé d'en faire un premier avec un professionnel français dont j'oublie le nom, c'était un désastre. Enfin, quelqu'un s'est brûlé la main dans un projecteur. La fois suivante, nous avons demandé à Man Ray, qui était très gentil, s'il ne voulait pas venir faire un film avec nous autres. Et nous étions une dizaine d'amis. Il a passé une semaine là. Il avait écrit une chose qui s'appelait « Les mystères du château du Dé ». Ça, d'ailleurs, était donné à droite et à gauche. Et nous faisions les choses les plus improbables. Moi, j'en ai pour une chose un mauvais souvenir. C'est qu'il m'avait, dans la piscine, il m'avait fait plonger dans un plongeoir en me mettant un bas de femme sur la tête. Tout naturellement, je suis ressorti. Et puis, j'ai cru périr parce que je ne me rendais pas compte que l'eau qui était dans les mailles, le temps d'enlever le bas, j'étouffais complètement. Ça a été... Enfin, il y avait toujours des petits malheurs comme ça, mais c'était gentil, amusant.
Ça, mais ensuite, vous vous êtes intéressé au cinéma pour faire de grands films.
En effet, il s'est passé ceci, que Georges Auric, qui était un grand ami, Jean Cocteau avait dit qu'il voulait faire un film. Et un beau jour, Georges a dit à Marie-Laure, je voudrais faire la musique d'un dessin animé. Alors, on a dit, au fond, c'est une très bonne idée, on pourrait financer un dessin animé dont vous ferez la musique. Et alors, qui est-ce qui va faire le scénario? Et ça, ils ont dit, on va demander à Jean Cocteau de faire le scénario. Georges Auric est rentré à Paris pour mettre ça sur pied avec lui. Et, oh, décidément, un dessin animé, ce n'est pas mon genre, disait Jean. Il faut que ce soit un vrai petit film. Alors, on a dit, va pour un petit film. Et le film est devenu une chose qui s'est appelée « Le sang d'un poète ». Et là, nous avons eu beaucoup d'amusement et d'intérêt de ce film. Et à ce moment-là, à une petite salle qui était là-bas près du Panthéon, où on donnait des films, nous avons été voir projeté par Man Ray le film qu'il avait fait avec nous. Et là, on donnait en même temps un autre film qui s'appelait « Le chien andalou ».
C'était Buñuel.
C'était de Buñuel, dont nous ne connaissions pas le nom. Voilà, enfin, c'est quelque chose de nouveau et d'intéressant. J'ai demandé à Buñuel de faire un petit film. Et il a fait ce petit film qui n'était pas exactement ce que nous voulions et qui s'est appelé « L'âge d'or ». Et quand il a été donné en public, ça a fait des manifestations. Par conséquent, nous avons décidé qu'il vaut mieux arrêter ça. Et le film n'a plus été donné que sur invitation ou pour des choses spéciales, on continue à le donner. De temps en temps, on écrit pour demander l'autorisation de le donner. Je dis toujours oui, il n'y a aucun inconvénient. Et tout ça a pris quelques années, ce qui fait que nous étions à ce moment-là arrivés bien près de l'époque où, après le krach américain, les choses avaient changé. Mais avant ça, nous avons eu un moment très amusant et gentil, qui était le petit festival que nous avions fait ailleurs.
C'est un festival lettres et musique, celui-là.
Oui, c'est toujours l'idée de s'amuser avec ses amis. La base de tout était de s'amuser avec des gens intelligents et de valeur, au lieu de s'amuser à faire des bourris. Mais alors, il y avait une petite salle de théâtre dans la ville d'hier, que nous avions louée pour une soirée. Le petit spectacle a duré une soirée, c'est-à-dire qu'il y avait une musique commandée à chacun de nos amis musiciens, des textes commandés à des amis littérateurs qui allaient avec la musique ou qui étaient indépendants. Et,
Max Jacob était du nombre, je crois.
Max Jacob avait fait un texte que Sauguet a mis en musique. Et puis Aldous Huxley, qui était notre voisin, avait fait un petit motif, quelque chose. Francis Poulenc avait fait une assez grande chose, qu'il appelait la violonisterie. Toutes ces choses que faisaient les amis dans des choses comme ça, c'était des choses qui ensuite allaient devenir une
œuvre plus importante, oui.
Une autre chose. Mais je cherche là aussi, il y avait une chose commandée à Igor Markevitch.
Désormière
était le chef d'orchestre. Buñuel avait fait une espèce de pièce qui a été récitée dans le jardin. Giacometti avait fait une girafe en bois découpé qui était un objet charmant. Christian Bérard avait fait des décors. C'était à peu près tout ce groupe-là d'amis. Jean Cocteau avait fait quelque chose aussi, je ne sais plus quoi. Mais il n'est pas venu au dernier moment, Jean Cocteau.
Je crois que c'est vers ces années-là, c'est-à-dire vers la fin des années 20, que vous êtes entré en relation avec Kurt Weill.
Ah, moi je me rappelle ça, je peux vous rafraîchir la mémoire, car il y a eu ici même, autour de cette table-là, il y avait Jean Jauric. Et c'est lui qui a parlé de l'opéra de Katsu que l'on donnait à ce moment-là à Paris, que je n'avais pas encore vu. Ça m'a encouragé à m'y précipiter d'ailleurs, n'est-ce pas ? Et ensuite, nous en avons parlé de cet événement. Et l'idée est née dans votre tête, n'est-ce pas, de m'envoyer à Berlin pour m'aboucher avec Kurt Weill et le déterminer à faire venir quelque chose de lui à Paris. Nous avons sympathisé, j'ai couché même chez lui, je me rappellerai, dans une maison de Wilmersdorf, à côté de Berlin, dans des draps en crêpe de Chine rose, qui était ceux de Lotolenia, qui n'était pas là quand même, je m'empresse de le préciser, elle était en tournée quelque part. Et nous avons arrangé tout ce spectacle, enfin, fort de mon mandat, n'est-ce pas ? Et des autres mandats, si j'ose dire, n'est-ce pas ? Et en effet, il est venu à Paris, à la salle Gaveau, il y a eu cette magnifique représentation de Gazager, et puis de Mahagoni. Je me souviendrai toute ma vie comme d'un souvenir absolument fabuleux de la répétition qui a eu lieu au premier étage. Je crois que c'était dans la grande galerie, là où se sont déroulés les films aussi. Et avec tous les chœurs de l'Académie de chant, chorale de Berlin, les musiciens, enfin tout ce qui devait se produire le lendemain ou le surlendemain à la salle Gaveau, c'était un souvenir inoubliable. Et vraiment, vous pouvez vous dire que vous avez, en favorisant une fois de plus, enfin, cette politique culturelle, n'est-ce pas, comme vous l'avez fait toujours, et dit en termes si gracieux, en ayant l'air de vous amuser, alors que ça était au fond très sérieux, n'est-ce pas ? Eh bien, vous avez là à faire quelque chose aussi très important, tous les deux, qui a certainement poussé, enfin, le développement de la carrière de Kurt Weill, qui l'a fait encore apprécier davantage, connaître en France.
Meine Herren, meine Mutter prägte auf mich ein schlimmes Wort. Ich würde enden im Schauhaus oder an einem Nord.
nichts. Das können die nicht machen mit mir. Was aus mir wird, das werden wir schon sehen. Ein Mensch ist kein Tier.
Autour du bœuf sur le toit, une série d'émissions de Paul Chavas réalisée par Evelyne Frémy et Marie-Rose Derouet. Aujourd'hui, quatrième partie, le bœuf sur le toit, la jeunesse, les mécènes. Cette émission a été diffusée la première fois le 21 août 1980 sur France Culture et initialement le 1er janvier 1972 dans sa version longue. À suivre. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Thank you.